Bonjour à tous. Dans cet épisode spécial de notre balado, nous nous penchons sur la place des femmes dans les métiers d'encadrement et de direction. Bien que la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars soit derrière nous, son esprit résonne tout au long de l'année, nous rappelant la lutte continue pour l'égalité des sexes. J'évolue depuis plus de 20 ans dans le milieu de l'éducation qui est composé en majorité de femmes, professeurs, conseillers d'orientation, pédagogues, psychologues. En revanche, je suis toujours frappée par la sous-représentation des femmes dans les postes de haute direction, un constat paradoxal dans un secteur si féminisé. C'est ce qui m'a conduit à inviter Shelia Twill, directrice générale de Collecto, l'organisme à but non lucratif pour lequel j'exerce le poste de conseillère en pédagogie numérique. Shelia incarne avec force et sérénité la capacité féminine à diriger, rester soi-même et être entendue dans un milieu exécutif à dominance masculine. Sa vision du collectif et son parcours offrent des perspectives enrichissantes sur le leadership féminin et l'innovation éducative. Alors, rejoignez-nous pour une discussion inspirante qui, bien que postérieure à la Journée de la Femme, est essentielle à notre dialogue continu sur l'égalité. Bienvenue sur le balado Jason Pédagogie Numérique. Alors aujourd'hui, on va parler de ta posture, Shelia, en tant que directrice générale pour une OBNL en éducation. Alors, je te pose ma question rituelle, puis tu vas pouvoir te présenter. Dis-moi, comment en es-tu arrivée à exercer dans le milieu de l'éducation?
Florence, merci aussi de ma part parce que c'est une première pour moi, comme je te l'avais dit quand tu m'as approché de faire cette expérience extraordinaire là. Puis là, je me vois avec mes écouteurs et tout ça là. Puis je trippe sur l'expérience de balado. Arriver en éducation, c'est vraiment un pur hasard là. On dirait mais un heureux hasard. Moi, je suis économiste de formation. J'ai un baccalauréat en économique et une maîtrise en économie de l'Université Laval en commerce international. Donc, en partant de là, on est très loin de l'éducation. Je travaillais dans le milieu gouvernemental quand un chasseur de tête m'a abordé en tant que vice-présidente de l'Association des économistes québécois pour travailler comme économiste en éducation. J'ai travaillé avec lui, j'ai présenté quelques personnes et ça n'a pas fonctionné. Et à la fin, ce cher monsieur de chasseur de tête, il m'aborde puis il me dit, mais pourquoi pas toi pour le poste? Alors que je l'avais lu, j'ai vu les compétences demandées, puis tout bonnement, je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas économiste d'éducation, j'ai une spécialisation. Il m'a dit, ben, moi, je l'essayerai, je trouve que vous avez ce qu'il faut. Et donc, je suis allée passer l'entrevue, qui n'était pas prévue, à la Fédération des centres de services scolaires dans le temps, avec une directrice générale et un directeur des ressources humaines, et ça cliquait vraiment. Ça cliquait avec les personnes et j'ai plongé dans le vide, comme on dit, parce que j'ai dit je l'essaye et je l'ai essayé, puis c'est là que j'ai découvert non seulement l'intérêt pour l'éducation, mais la passion pour l'éducation. Oui. Et je suis contente parce que c'est arrivé à une étape de ma vie où mes enfants allaient commencer l'école et tout ça. Et j'ai découvert vraiment là, ce qui prouve que je ne suis jamais sortie de l'éducation. Je suis restée par choix. C'est à une place, je le répète toujours à mon équipe, où il faut être. C'est en éducation.
Donc, on comprend bien que tu arrives à ce poste de directrice générale de Collecto, un OBNL dans lequel j'évolue aussi moi-même en tant que chargée de projet et conseillère en pédagogie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Collecto, vraiment rapidement là pour mettre les auditeurs dans le contexte, qu'est-ce que fait cet organisme?
Collecto, quand je suis arrivée, je rappelle, Collecto, c'est une organisation, c'est un OBNL qui a été créé par les cégeps il y a de là 25 ans dans un objectif de mutualisation. L'objectif premier, c'était de dire, on se met en groupe, on achète ensemble pour générer ce qu'on appelle en économie des économies d'échelle, et parce que plus le groupe est gros, plus on va avoir des rabais sur les achats. Et ça a été ça grandit dans cet esprit-là jusqu'à 2019, donc où moi je suis arrivée chez Collecto, parce que deux semaines après mon arrivée, arrive un projet de loi gouvernemental qui a fait que Collecto devait transférer donc ce gros secteur qui s'appelait les achats regroupés.
Deux semaines, c'était le cadeau.
C'était le cadeau d'arrivée. C'était mon cadeau d'arrivée. Moi, je venais quand même avec des visions, des perspectives de croissance, mais il m'est jamais arrivé à l'esprit de perdre deux semaines en arrivant. Donc, deux semaines plus tard, de perdre le secteur le plus lucratif chez Collecto, y ramener 75% des revenus et de dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait deux semaines plus tard, sachant que le projet de loi allait passer, donc que les contrats allaient partir. On avait deux choix, ou suivre le mouvement, donc aller puis accepter la décision et de dire on s'aligne puis on va travailler comme organisation administration gouvernementale, ou c'était le choix le plus risqué, mais le plus intuitif pour moi, de dire on va rester, on va essayer autre chose, on va travailler sur le collectif, mais le collectif partout. C'est pas le collectif seulement dans la mutualisation d'acheter ensemble, le collectif dans tout ce que maintenant Collecto est devenu, dans ton secteur, là, le pédago numérique, la Florence, mais le collectif aussi beaucoup dans nos services conseils et formations, dans toutes nos formations collectives et dans nos solutions plus axées sur la pédagogie. Donc, c'est ce virage-là que Collecto a vécu durant les 5 dernières années, là, parce que j'arrive à la fin de mon premier mandat. donc, c'est avec ça qu'on a fait grandir Collecto, l'équipe de Collecto. On est passé de 20, 25 à, maintenant, comme tu le sais, on est 61, à travailler dans plusieurs secteurs.
Et c'est ça, en fait, ça nous emmène à rebondir sur ta posture en tant que femme. Dans le milieu de l'éducation, je dirais, en partant de la garderie, en passant par le primaire, le secondaire, le réseau collégial, c'est quand même un milieu très féminin. On y trouve des professions attribuées dans l'imaginaire collectif aux femmes, des enseignantes, des conseillères pédagogiques, des techniciennes en administration, etc. Alors bien sûr, je ne peux pas tous les citer, tous les métiers ici que je salue, mais il y a plein de métiers dans le réseau de l'éducation. Plus on monte dans les hautes sphères de ce milieu, plus on va vers des postes qui sont décisionnels, qui sont stratégiques, qui sont encadrants, et puis ça devient un milieu masculin. Comment toi, Shelia, tu évolues dans ce milieu?
C'est vraiment chouette là, comme question, parce que on est dans des fonctions plus masculines et dans un milieu à dominance féminine. Je vais parler de moi, c'est vraiment de se faire confiance aussi et se faire confiance dans son style, comment, et d'accepter qu'une femme est différente et que j'aurais pas pris les mêmes décisions. J'ai parlé tantôt du virage chez Collecto, les décisions d'être intuitif, de choisir de rester, de travailler avec ça aurait pu être différent s'il y avait quelqu'un d'autre ou peut-être un homme à la place. Faire confiance aussi à son intuition. Moi, je travaille beaucoup avec ça et de dire sur mes besoins et les besoins des autres. Donc, d'être à l'accueil de ça et de dire j'y vais me connaissant, donc de se connaître soi-même là, et d'arriver avec son style assumé là, de femme. Oui. Donc de gérer tout en assumant tout là. Tu sais, des fois on le voit aussi quand c'est une femme, est-ce qu'on a le droit d'être entre guillemets émotive? Oui, oui. On peut, et ça fait partie de nous quand ça ne marche pas ou quand ça marche beaucoup. Tu me connais, tu sais, je suis toujours enthousiaste, ou des fois quand ça marche pas, ça paraît tout de suite. Donc, de ne pas se forcer à contrôler ça, parce que le style émotif aussi a ses avantages pour les autres, pour l'équipe. L'équipe, la communication, elle est primordiale, puis la communication est fluide, en tout cas.
Ouais. As-tu déjà eu ça, toi, de te retrouver dans une rencontre à majorité masculine, de dire que si tu es émotionnel ou trop émotionnel, tes interlocuteurs vont te voir comme faible? Généralement, en tant que femme, on a tendance à se bloquer, à bloquer à gérer et à bloquer nos émotions. On a peur que nos interlocuteurs voient nos émotions comme une faiblesse. On a peur d'être perçu comme un maillon faible. Tu dis que tu vois en fait l'émotion comme un avantage. Est-ce que tu as déjà eu, toi, des remarques de ce type?
Moi, je sais pas, les remarques peut-être pas directement, mais je les ai eues indirectement. Mais mon point, c'est que il faut l'assumer, on est comme ça, de s'empêcher, parce que pour moi, s'empêcher aussi de réagir spontanément à des choses, dans le respect des autres, évidemment, mais de dire, c'est quand même la clé pour les autres d'aller chercher ta vraie position, c'est-à-dire, on arrive, on a un débat, on a une décision à prendre, et de laisser aller une réaction positive ou négative à l'égard d'une annonce, d'un projet, d'un commentaire, c'est aussi outiller les autres et faire avancer la chose là, par rapport à ça. Et surtout, c'est d'être authentique. Moi, je le suis et j'apprécie tellement que les gens le soient dans une même rencontre parce que c'est aidant. C'est parce que quand tu sors, quand la personne te dit oui ou non, c'est définitif selon moi si elle se laisse aller à ses émotions positives ou négatives toujours. Mais à l'heure juste, on gagne en efficacité, on gagne en temps, on gagne des allers-retours. Donc, c'est vraiment une force. En tout cas, si une femme se permet de vivre ça, même dans des rencontres à très, très haut niveau, de dire moi, je suis pas d'accord, puis ça m'affecte même des fois personnellement, un commentaire ou des choses comme ça, de se donner l'espace d'échanger, puis de tout simplement de l'assumer qu'en faisant partie de nous, c'est vraiment pas une faiblesse pour moi. Là. Au contraire, c'est le courage de ses émotions.
Ok, donc Shelia, je vois que tu parles d'authenticité. En soi, il s'agit d'insister sur la dimension humaine dans les échanges. On sait que quand on est authentique, même dans une réunion où on a des prises de décision assez lourdes à faire, l'authenticité amène effectivement la possibilité d'aller un peu plus loin dans les réflexions. C'est de là que je vois que dans tes prises de décision, tu te laisses être toi. Est-ce que tu as d'autres stratégies au-delà de l'authenticité et du rester soi? Je suis sûre que tu as dû faire plusieurs tests, là, il y en a sûrement qui ont fonctionné ou pas. Ou tu t'es dit, option 2, moi de toute façon, je reste moi et puis advienne que pourra.
Je dirais la deuxième option, puis ça fait partie, peut-être pas à cause que je suis femme, mais ça fait partie de la personne que je suis, c'est-à-dire d'assumer en général ce que je suis, de vivre avec les conséquences et de me donner le droit aussi de se tromper. Des fois, je me trompe, je me donne le droit de le faire, je le donne le droit à mon équipe de se tromper d'une décision ou d'un feeling et de revenir là-dessus en toute transparence. Donc oui, c'est peut-être pas évident, mais c'est comme inné ça là, de se laisser aller. Quand même, j'aurais essayé de se retenir, ça sortait toujours. J'essaie évidemment tout le temps que dans le respect des autres et de donner aussi, moi ce que j'apprécie, c'est l'occasion que ça donne quand on l'est, est authentique. On dirait que ça encourage les autres à l'être, même dans des réunions ou même avec des gens c'est un milieu plus masculin ou des postes décisionnels plus hauts que le mien ou des gens avec lesquels je travaille. Quand tu ouvres la porte à ça, même ceux qui se retenaient, ils se donnent le droit de l'être avec nous et aussi avec l'équipe. Là, tu sais, moi, l'approche humaine est très importante pour mon équipe à moi aussi.
Est-ce que tu as ressenti parfois dans certaines situations que le fait d'être une femme a pu influencer certaines prises de décision dans le cadre de réflexion? On a mentionné tout à l'heure que le milieu de l'éducation, c'est un milieu qui est quand même assez féminin. Tu es directrice, femme, mais maman aussi. Est-ce que ce sont des facteurs qui t'influencent dans ton milieu professionnel?
Oui, dans une certaine mesure aussi en lien avec nos propres valeurs de femmes dans un milieu de l'éducation. Je veux pas généraliser, il y a des décisions que j'ai prises ou que je prends actuellement qui sont plus en lien avec cette vision de maman, d'équité, très axée sur l'élève en tant que tel, là, parce que je reviens à Collecto, le fait qu'on ait fait ce virage aussi vers la mission, parce que, comme j'ai dit, ça a été créé dans une optique de mutualisation, d'efficacité et tout, et là, on se retrouve avec une organisation où on est de plus en plus dans les services presque indirects et presque directs à travers les enseignants puis à travers votre secteur. Donc, c'est un peu la décision aussi de centrer tout ce qu'on fait, de se rapprocher de de la mission, là, en fait. Là. Oui. J'en parle beaucoup, la mission éducative, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, on gère pas Collecto, même si on donne beaucoup de services, on a des enjeux financiers, il faut établir les tarifications, des services, des cotisations, mais avec toujours un souci derrière, non pas un souci commercial, mais un souci vers la mission du réseau elle-même. Là. Et je sais pas jusqu'à quel point la décision d'une femme ou d'un homme peut jouer, mais...
C'est vrai qu'on ne veut pas généraliser ici, mais tu sais, je me disais peut-être que le fait d'être maman apporte un peu ce côté maternel, éventuellement. La question que je me posais, c'est de savoir si toi, en tant que directrice dans un organisme en éducation tel que Collecto, tu t'identifies et tu prends certaines décisions parce que tu es maman aussi. Tu avais mentionné lors d'une conversation que tu avais 3 enfants qui sont d'ailleurs à quel niveau?
Ils ont grandi vite. J'en ai une qui est rentrée à l'université cette session, une au cégep, puis un qui est en 4e année secondaire. Tout à fait. Moi, je me positionne dans le réseau de l'éducation aussi comme, j'aime pas le mot, là, il est plus en économie, là, comme utilisatrice du service. Oui. Donc, j'ai cette perspective là de tout ce qui tourne autour des services à l'élève et tout, puis j'ai la chance de l'influencer à travers Collecto et à travers d'autres instances dans lesquelles je siège ou d'autres jobs que j'ai eu dans le passé. Oui. Donc, ça influence nécessairement. D'une femme aussi où des enfants vont dans le réseau public. Ils ont toujours ça aussi. C'est une autre valeur personnelle, évidemment, où on choisit d'envoyer nos enfants dans le réseau public avec les avantages et les inconvénients du réseau public que tout le monde connaît. Mais ça teinte aussi là, l'espèce d'être mère et d'être en contact direct avec plusieurs personnes dans le réseau, ça donne le ton. Je donne un exemple d'un projet qui est chez Collecto, le projet PAFCAS. Donc, on gère et on administre avec le ministère de l'Éducation un programme d'aide financière aux conducteurs d'autobus scolaires. Et ça, c'est un beau programme qui bonifie les conditions de travail de ces gens-là. Mais ces gens-là, ils transportent nos enfants à chaque jour. Donc, c'est un projet qui était monté avec le ministère. Donc, encore une fois, quand on l'a commencé, on sautait dans le vide. Mais c'est un projet qui a directement des conséquences. Des conséquences sur les élèves. Fait que définitivement, je pense vraiment que le fait d'être maman a influencé certaines décisions, certains choix là pour moi.
D'accord. En fait, ça rentre un peu dans le sujet des défis. Là, on a eu le portrait de Shedlia, l'économiste, Shedlia, la directrice générale, Shedlia, la maman d'une famille nombreuse. Il doit forcément y avoir des défis dans le maintien de l'équilibre, tu sais, entre ta vie professionnelle et personnelle. Comment tu gères tout ça? Parce que moi, déjà à mon niveau, j'en ai 2 et la vie passe à 450 km/h. Je suis très 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 occupée. Je ne me vois pas directrice générale, gérer 2 enfants, prendre du temps pour moi et pour mes loisirs. Être à ta position, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Est-ce que tu peux partager un peu avec nous comment tu gères? Alors, équilibre ou pas, hein, ça je ne sais pas, on va peut-être pouvoir découvrir des choses.
J'aime penser que c'est quand même une vie équilibrée. Ça l'était à certaines périodes, pour être honnête, et pour arriver là, ça l'était moins. Mais de se faire confiance, parce que je sais que beaucoup de femmes regardent ça, qui ont le potentiel, on nous le dit, on le voit nous-mêmes, puis on retarde la décision pour appliquer sur des postes de gestion ou d'aller plus loin. On se connaît, on se dit un jour, mais c'est le pas, c'est de faire le pas et d'y aller, de se faire confiance, mais dans nos compétences au féminin, de dire c'est pas parce que, même avec ça, même avec mes faiblesses, de se connaître, en fait, de connaître connaître ses forces et ses faiblesses et d'y aller, mais il faut avoir aussi des conditions gagnantes et un environnement favorable, évidemment, surtout si on est maman et comme moi, qu'on fait le choix d'avoir une grande famille, parce que maintenant, 3 enfants, c'est une grande famille au Québec. Ouais, le choix aussi d'une femme immigrante. J'avais pas de réseau familial très développé autour. Évidemment, j'avais des amis, ma belle famille, mais ma propre famille est en Tunisie. Donc, de faire ce choix-là et de dire, malgré tout, je fonce et j'y vais. Il fallait avoir un certain environnement, comme j'ai dit, favorable à ça, le conjoint qui est disponible, qui partage évidemment les tâches. Je suis très attachée à l'égalité, au principe égalitaire dans un couple. Donc, de se faire confiance et d'y aller aussi, de se donner, comme j'ai dit, de se donner la chance de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs, de pas être très exigeant envers soi-même. Ma devise, c'est « je fais toujours de mon mieux ». Mon mieux, ouais. Dans la journée J, dans le contexte X, je fais toujours de mon mieux. Des fois, ça donne des résultats escomptés. Des fois, ça le donne pas. Mais au moins, je m'assure de le faire.
Donc, en fait, cet équilibre-là, puis, et même le fait, tu vois, que tu dises que tu oses espérer que c'est un équilibre, j'ai l'impression que même toi, en tant que directrice d'une organisation comme Collecto, tu laisses une touche personnelle. Je dirais un peu dans la manière dont tu accompagnes les différentes politiques de bien-être au travail. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis bien contente de te recevoir et de te dire que j'apprécie énormément de travailler dans un organisme où je n'ai jamais observé autant de petites attentions qui sont portées aux employés. La possibilité de concilier travail et vie de famille, de s'émanciper au travail, sont autant d'aspects qui apportent une énergie dans l'organisme. Alors je me dis, il faut avoir une certaine empathie ou avoir vécu les choses soi-même pour se poser la question du bien-être et de, bien sûr, suivre des actions sur le terrain qui vont avoir des effets sur les employés. Je te dis ça parce que j'ai un certain âge et une certaine expérience et j'ai travaillé dans différents organismes du réseau de l'éducation avec beaucoup de patrons. Et en faisant des comparaisons, je notifie qu'il y a quand même une petite touche de féminité. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont tu te rends compte? Si tu me dis, Florence, écoute, j'ai pas fait exprès.
Non, j'ai fait exprès. Par expérience aussi, là, puis je veux pas parler de mes propres expériences parce que là-dedans, j'ai eu des gestionnaires plus axés sur lui-même, j'en ai eu d'autres qui étaient axés plus sur les résultats et l'humain venait après. Mais c'est vraiment un souci très, très sincère puis très authentique du bien-être des gens avec lesquels je travaille. Moi, ça me fait vraiment plaisir quand les gens me disent que, tu sais, qu'ils ont du plaisir, là, de travailler. Puis c'est pas sorcier, c'est une stratégie de rétention aussi, là, et de marque, on se démarque avec ça. Donc, c'est naturel, oui, mais je suis très consciente que ça a un impact, puis ça me réjouit, mais je le fais exprès. Je travaille très fort pour que mon équipe et les gens de l'équipe se sentent bien, qu'il y ait cet équilibre-là. Il y a des choses que je fais différemment d'autres organisations. Je te donne un exemple, le temps supplémentaire. J'ai demandé au gestionnaire, puis je vous demande toujours de nous informer, tu sais, c'est sûr que c'est un temps qu'on va considérer, mais de nous informer pour qu'on soit attentif à ça, pour que on re-questionne les charges de travail de la personne pour dire oui, tu peux le faire maintenant, mais j'ai un souci pour que tu sois bien. Évidemment, je parlerai pas de toutes les petites activités et qui sont pour moi non seulement nécessaires, mais c'est cet esprit d'équipe-là. Malgré tout, on est dans une organisation entre deux villes. Là, on est un bureau à Québec, un bureau à Montréal. On a des gens maintenant partout au Québec / Canada quasiment avec toi qui travaillent ensemble. Mais pour travailler cet esprit d'équipe-là, il faut être attentif à l'humain, attentif aussi. Tu le sais, notre équipe est majoritairement féminine aussi. Tu as des collègues, moi, au-delà des défis. Quand une des collègues arrive puis m'annonce qu'elle est enceinte, je me réjouis tout le temps puis c'est sincère. Je pense au défi de combler le poste, de chercher la personne, mais pour moi, c'est de dire oui puis ta place va être là. Puis j'ai eu des exemples même des tu l'as vu, certaines de tes collègues qui étaient en congé de maternité, ils venaient même si on leur imposait pas, ils venaient, ils participaient aux activités de groupe. Donc c'est super important pour moi là ça. Puis je m'efforce.
Alors moi, je vais me permettre quand même de dire que c'est la petite touche féminine en tout cas. À Colecto, et surtout pour toi, Shelia, quels sont les défis, les enjeux qu'on va pouvoir observer et auxquels on va pouvoir répondre dans les années à venir? Surtout en innovation dans le milieu d'éducation, il y a eu l'arrivée de l'IA générative avec ChatGPT qui est apparue vraiment là de manière disruptive à tous les niveaux de la société. Quelles sont selon toi les stratégies ou les choses qu'on peut faire de manière collective pour relever les défis de ces enjeux numériques?
Strictement sur le volet technique, moi je vous fais confiance à vous parce que vous le savez tous, en tout cas, l'équipe de Florence, c'est des équipes qui faisaient de la veille déjà sur tout ce qui est innovant. L'intelligence artificielle, moi je la vois vraiment très 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 positivement là, toutes ces stratégies-là, surtout en éducation. On est impliqué dans plusieurs choses dans notre réseau, mais moi j'y crois pour aider à la réussite, là. Puis toutes ces technologies-là, si on les maîtrise bien, comment je comprends la chose parce que je ne suis pas experte, si on les exploite comme il faut, on a un autre projet avec le ministère de l'Éducation du Québec pour l'intelligence numérique. Tout ce qui est modèle prédictif de la réussite, si ça nous permet de mettre les efforts à la bonne place, de détecter des élèves qu'on appelle à risque, qu'on peut aider, c'est déjà ça. J'aime faire confiance aux technologies innovantes entre des bonnes mains pour justement amener les élèves ailleurs ou aider à favoriser leur réussite. Là, c'est quelque chose que je suis très, très contente là, de tout ce qu'on fait chez Colecto là-dessus. Je continue à être intéressée à ça.
L'organisme porte bien son nom. Dans Colecto, on entend collectif et cet engagement collectif, on le comprend bien. Comme on en avait discuté auparavant, c'est important aussi cette valeur de bien sûr répondre aux besoins du réseau, de mettre des valeurs éducatives dans ce qu'on fait. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans la conception du collectif chez Colecto?
En fait, ce que j'aime dire maintenant, c'est que Colecto, c'est vraiment un partenariat, là, des collaborations avec les gens. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont capables de faire des choses qu'on fait, dans la mesure du possible, d'aller chercher des collaborations pour que chacun mise sur sa valeur ajoutée. Tu l'as vu dans certains projets, puis j'aime le dire aussi, quand on peut impliquer nos partenaires, moi, nous, on ne dédouble pas. On ne fera pas des choses s'il y a un autre organisme, il y a un autre groupe en éducation ou ailleurs qui peut nous aider à le faire. Au contraire, ça va dégager du temps et de l'énergie pour qu'on se concentre sur d'autres choses. Donc, Colecto, oui, la collectivité, mais la collectivité aussi complémentaire. Donc, on a cette posture-là, puis elle est aussi, c'est un souci d'efficacité. Aussi, là, on ne dépensera pas des sous quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire une partie du travail, une partie du projet. On le voit de plus en plus, Colecto. Là, tu l'as vu avec les formations continues, tu le vois aussi avec nos collaborations avec nos partenaires, vos nouveaux projets, là, tout ça. On essaye de chercher ça parce que on veut pas refaire la roue, puis on n'a pas l'énergie ni les ressources dans un contexte de pénurie. Donc, c'est vraiment comme ça que je veux travailler puis donner la chance à d'autres organismes ou à d'autres mondes de nous approcher. Je m'attends aussi à ce que les autres le font aussi à notre égard. Donc, quand on a une expertise, qu'on vienne la chercher, puis ça va nous faire plaisir.
Merci, merci Shelia. Peut-être pour finir, le temps passe tellement vite et on arrive déjà à la fin de notre entrevue. J'aurais aimé encore là écouter plein de petites anecdotes et encore des petits trucs épicés, mais je sais bien sûr qu'on ne peut pas tout se dire ici. En tout cas, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, pourrais-tu faire un rapide résumé ou nous partager tes astuces lorsqu'on est une femme dans le milieu de l'éducation et qu'on aimerait accéder à des postes dans les hautes sphères? Comment concilier travail et vie de famille? Comment prendre des décisions et imposer sa posture de femme?
Oui, je vais essayer de faire des résumés, même si c'est pas une de mes forces là, parce que je suis connue pour m'étendre sur les sujets. Rapidement, c'est de se faire confiance comme femme et de l'assumer, là, de dire une femme, c'est peut-être plus émotif que certains hommes, c'est peut-être plus intuitif. De se faire confiance et de vivre avec ça, avec les avantages, de miser sur les avantages d'être une femme aussi, d'avoir cette proximité, surtout dans le milieu de l'éducation, avec les besoins de nos élèves, c'est de miser là-dessus, de dire une femme, oui, c'est différent. Ça peut prendre des chemins qui sont différents si ça avait été un homme à la même place. Mais de se faire confiance comme femme et de l'assumer, moi, je pense, je le répète, de vivre bien avec ça et de se donner le droit. Les femmes sont connues aussi pour être perfectionnistes. Ça, je le suis moins. De se donner le droit à l'erreur pour nous-mêmes et pour nos équipes et d'avancer avec ça. C'est comme ça que je résume.
C'est un bon résumé, ça, Célia, écoute.
J'ai fait vite.
Merci beaucoup, Célia. Et puis, j'espère qu'on pourra se retrouver pour d'autres épisodes. À bientôt.
Merci à toi.